Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1964, sur les ondes de la RTF, Roger Planchon présente La Remise, la première pièce qu'il ait écrite. Elle a été jouée au Théâtre de la Cité de Villeurbanne et va l'être bientôt à Paris, au Théâtre de l'Odéon. Sur une montagne pelée d'Ardèche, j'ai gardé les vaches longtemps, expliquait-il des années plus tard. Aussi, ce n'est pas étonnant qu'à 33 ans, lorsque j'écris ma première pièce, je parle du grand exil des paysans pauvres vers les mines de charbon, les chemins de fer, les usines, des années 20 à la chute de Dien Bien Phu. C'est ma saga familiale. Auteur débutant, Roger Planchon se décrit comme un vieux metteur en scène alors qu'il n'est qu'un très jeune trentenaire. Il est vrai qu'au milieu des années 60, encore au début de ce qui sera une impressionnante carrière, il a déjà monté des dizaines de spectacles. En Haute-Ardèche, petit garçon, j'ai connu les dernières veillées villageoises, racontait Planchon. Dans ces veillées en sabots, j'ai appris à rêver éveillé. Je gardais encore les vaches lorsque, à 14 ans, je décidais de travailler dans le spectacle. Je ne savais rien, je n'avais rien lu, rien vu, mais j'avais une boussole, mes veillées ardéchoises. Roger Planchon est l'invité de Roger Pilaudin pour les coulisses du Théâtre de France.
J'aime bien présenter les pièces, mais pour une fois, je suis très embarrassé parce qu'il s'agit de la mienne. Et autant il est facile, lorsqu'on présente Molière, de pouvoir expliquer ce que peut être le Tartuffe que nous représentons actuellement à l'Odéon, ou lorsqu'il s'agit de Shakespeare, je crois qu'il est quand même commode d'en parler parce qu'il y a d'abord 300 ans, sinon plus, que des commentateurs s'agitent dessus, autant là, pour parler de ma pièce, je ne sais plus quoi dire. J'ai écrit cette pièce et j'ai été le premier surpris d'avoir écrit. J'étais un vieux metteur en scène, j'ai monté 50 spectacles. Or, tout ce que je pouvais savoir sur le théâtre ne me servait strictement à rien. Mieux, je me suis aperçu que le domaine du langage n'avait aucun rapport avec le travail de metteur en scène. Et une autre surprise m'attendait une fois la pièce finie, c'est-à-dire quand j'ai voulu la mettre en scène. Je n'arrivais pas à avoir une position de metteur en scène. J'avais beaucoup de mal à la mettre sur le plateau. Je crois que ça s'explique en définitive, et j'ai du moins essayé d'y réfléchir, c'est que je crois que le metteur en scène, c'est quelqu'un qui dit « Une pièce, c'est cela, et cela, il le trouve admirable, et en disant c'est cela, il introduit à l'intérieur de la pièce une hiérarchie des choses. » Or, je ne pouvais absolument pas introduire une hiérarchie, je trouvais que tout était important, vu que je l'avais mis. Et en même temps, je ne pouvais pas trouver ça admirable comme cela venait de moi. J'avais au contraire très tendance à le dévaluer sans arrêt, à trouver ça absolument ridicule, sot, etc. Si bien que, bon, j'ai écrit une pièce après avoir fait 13 ans du théâtre et j'en suis encore à m'étonner et à me demander pourquoi je l'ai écrite. C'est une pièce imaginaire, mais elle est composée avec des éléments de la réalité. C'est un peu l'histoire de ma famille. C'est l'histoire de paysans de la Haute-Ardèche qui, il y a 100 ans, ont commencé à arracher les arbres, à défricher les bois, pour essayer de mettre la terre en petites terrasses, en espaliers. Et ils ont remonté avec des sacs en jute la terre du fond des rivières et ils l'ont mise là, pour essayer de cultiver un peu de seigle, un peu de pommes de terre. Mais au même moment, la France s'industrialisait, on ouvrait des routes en Ardèche. Et petit à petit, ils se sont aperçus que ça ne servait à rien tout ce qu'ils avaient entrepris. mieux que ça n'avait aucun sens. Et tous les paysans de la Haute-Ardèche ont quitté l'Ardèche. Et les derniers qui vivaient là, comme mon grand-père, ont vu que le gouvernement donnait des subventions pour reboiser l'Ardèche sur la terre qu'ils avaient déboisée et qu'ils avaient essayé de cultiver. Voilà là l'argument du point de vue social, si l'on veut, mais en vérité, ce n'est pas qu'une histoire sociale, mais c'est aussi l'histoire des hommes, d'un groupe d'hommes. Et comme je l'ai déjà dit, c'est l'histoire de mon grand-père qui a eu deux fils. Le premier était mon père, et mon père très vite a quitté l'Ardèche. Après s'être disputé avec mon grand-père, il est parti. Il lui a dit qu'il ne voulait plus cultiver, que ça n'avait aucun sens, et il est parti. Et mon grand-père a eu un second fils qui s'appelait Gabriel. Et ce second fils, il l'a conditionné, et il a fait en sorte que jamais Gabriel n'ait envie de partir. Ou plus exactement, il a eu des velléités de partir, mais il est toujours revenu. Et un jour, Gabriel a voulu se marier avec une fille de là-haut. Le père de cette fille avait deux camionnettes. Et le vieux a fait en sorte que le mariage soit brisé, parce qu'il s'est dit, si le beau-père meurt, Gabriel va prendre les camionnettes, si bien qu'il faut briser absolument ce mariage. Et il a réussi son coup, c'est-à-dire que le mariage a été rompu. En vérité, d'ailleurs, la fille est morte parce que la fille était enceinte, et elle a tenté de se faire avorter avec de la térébenthine, de l'eau de Javel, je ne sais quoi, enfin, elle est morte comme une bête. Et à ce moment-là, mon oncle s'est mis à dormir d'abord 8, 10 heures, 15 heures par jour, puis enfin 20 heures, puis après il ne se levait plus que pour manger. Et un jour, il en a eu assez, il s'est jeté sous un pont. Voilà l'argument central, enfin, c'est une chronique.
Moi, je voudrais simplement ajouter que c'est une pièce policière, ou plus exactement, c'est une pièce qui utilise certaines techniques de pièces policières. En ce sens que c'est une enquête. Nous assistons à une enquête. Le vieux paysan, Chausson, qui a été trouvé mort le même jour que son fils Gabriel s'est suicidé en se jetant du pont. Et le petit-fils de la famille, celui qui vit dans les villes, vient, à l'occasion de cette enquête, passer 3 jours en Ardèche. Et c'est à travers l'enquête, à travers la recherche du coupable, que toute cette chronique prend sa place. Je disais que c'était une pièce policière, mais c'est en fait une fausse pièce policière parce que lorsque l'on saura qui est le coupable, eh bien à ce moment-là, on s'apercevra que ce n'est pas là le sujet de la pièce et que le nom du coupable ne présente aucun intérêt.
La chose aussi que je voudrais dire, c'est que ces paysans de la Haute-Ardèche, je crois que je les connais, ou que je les ai connus du moins, puisque maintenant il n'y en a plus. J'ai une très grande admiration pour ces hommes-là. Enfin, en deux mots, pour moi, c'était des rois. Cela peut paraître paradoxal, mais ils ressemblent un peu au Richard III, aux grandes créatures de Shakespeare, que j'aime particulièrement, et... Ces gens-là, je ne les avais jamais rencontrés dans ma vie, et c'est en Ardèche, je crois, qu'ils existent, ou du moins qu'ils existaient. Ces gens-là parlaient très peu, ils ne parlaient qu'en patois, ils ne parlaient pas en français. En Haute-Ardèche, on dit comme ceci, quand on se déplace de 15 km, on va en France. Pour eux, la Haute-Ardèche, c'est pas la France. Donc ils n'ont jamais parlé français. Et en plus, ils ne parlaient pas. Mon grand-père et mon oncle, c'était des grands silencieux. Or, le principe du théâtre, c'est de les faire parler. Et comme les pauvres ne parlaient qu'en patois, ça aurait été bien difficile de l'entendre. Alors en définitive, j'ai choisi une langue qui est un langage très très populaire, mais avec une syntaxe un peu particulière, et qui est un décalque de l'ancien français.
S'il est difficile de faire parler les paysans, il est aussi très difficile de les jouer. Il y a une trentaine de comédiens dans la remise, et je voudrais citer les principaux. Tout d'abord, Planchon, qui joue lui-même le rôle du vieux paysan, le rôle de Chausson. Jean-Marie Lancelot, qui joue Gabriel, le fils dont la vie sera brisée. Isabelle Sadoyan, qui joue Violette Nogier, la fille qu'aurait pu épouser Gabriel. Frédéric Ruchot, qui joue Marie Giffard, une vieille paysanne extrêmement dure, vouée à un seul amour. Marie-Louise Ebly, la mère, et puis Claude Dauchy, Georges Staquet, Pierre Santini, et il y en a bien d'autres. Et nous allons demander à Jean-Marie Lancelot et Isabelle Sadoyan de nous dire la scène de la rencontre entre Gabriel et Violette Nogier.
Oui, la scène de la rencontre entre Gabriel, donc le second fils, celui qui se suicidera à la fin, et Violette Nogier. Mais c'est très difficile, car ce que j'ai voulu faire, c'est une pièce qui soit extrêmement théâtrale. Et tout ce qui pouvait être dit par le théâtre, je n'ai pas éprouvé le besoin de l'expliquer avec des mots. Ainsi, dans la scène que vous allez entendre, c'est une situation assez paradoxale. La mère de Violette Nogier vient d'être tuée par un petit milicien, plus exactement par un petit voyou qui appartient à la milice et qui se trouve, à la suite d'une péripétie, dans le coffre à fromage sur lequel est assis Gabriel. Et je dis ça pour éclairer la scène, toutes les fois que Gabriel veut bouger, il a un peu peur. Son père lui a recommandé de ne pas bouger, de rester assis là, et c'est là la situation, c'est-à-dire que parallèlement à l'histoire qui se déroule, c'est-à-dire la rencontre qui est en définitive une scène d'amour, il y a en même temps sous-jacent quelqu'un qui assiste là, dans le coffre à fromage, et qui assiste à cette scène, et qui est précisément l'homme qui a tué la mère de Violette Nogier.
J'ai rempli mes galoches à couper par les collines. Puis à courir avec ce gravier, je vais avoir les pieds en sang avant demain, moi. Si je l'évite pas de temps en temps. Quelle saleté, le silex. Ça vous entaille la viande. Et ça fait près de 5 bonnes heures qu'on trotte. Mais dites donc, Cornio, vous avez fini de regarder mes fesses, oui?
Maintenant, tu peux rabattre tes jupes. J'ai vu ce qu'il y avait à voir.
Les maquisards voudraient le trouver. Ce genre de salopard, ça leur fait un tort considérable.
Je ne m'occupe pas des manigances politiques.
Alors, il a tué votre mère. D'où êtes-vous?
Du Chambon.
Vous êtes une des filles Nogier.
Comment tu as deviné?
Je t'avais déjà vu à la foire aux violettes à Sainte-Eulalie en avril dernier. Dis-moi, on t'a déjà fiancée?
Mais qu'est-ce que j'aurais à faire d'un garçon? Moi qui suis jeune encore. Avec une mère morte qu'on va enterrer. Puis cette guerre.
Moi j'ai rien à voir, ni avec ta mère, ni avec la guerre.
Alors, pourquoi tu grimaces?
C'est le père. Je le déteste assez fort, surtout aujourd'hui. C'est un homme terrible et sauvage.
Je l'ai vu te commander. Mais je t'ai vu aussi filer doux.
On ne va pas croire que je me laisse cogner. Même un sanglier ne me fait pas peur.
Quand est-ce que tu vas retourner à une foire?
Pendant une longue année, je dois porter le deuil.
Des fois, je passerai au Chambon cet automne. Ou bien dimanche qui vient. Je suis un garçon fantasque. Il m'arrive de changer de paroisse de temps en temps pour me promener. Et si je passe au Chambon ce dimanche, peut-être que je te rencontrerai.
Pourquoi pas? Oh, j'ai de la crasse sur la langue. T'as pas une louche d'eau à me donner? Mais non, ne bouge pas. Sinon, gare au père.
Toi, tu as une bicyclette?
Non, mais ce n'est pas grave. Si tu n'as pas de porte-bagages, je grimperai sur le cadre.
Le bruit vient de l'étable. Notre étalon cogne du sabot. Ce matin, on l'a châtré. Il ne saigne plus, non? Il est nerveux et couvert de bave.
Pauvre petit poulain. Dis donc, le chausson. Je ne vois pas comment un sanglier pourrait te faire peur. Le dernier des hommes l'ont tué il y a déjà 5-6 hivers.
Thank you. La remise n'a été jouée jusqu'à présent qu'à Villeurbanne, et très peu de gens à Paris l'ont vue. Mais il se trouve qu'un de nos amis, Lucien Goldman, qui est critique littéraire et sociologue de la littérature, a vu le spectacle à Lyon, et c'est à lui que nous avons demandé de présenter la pièce de Planchon.
J'ai été très impressionné par le spectacle, et je crois que, bien que ce soit la première œuvre écrite rendue au public par Planchon, c'est déjà une œuvre importante qui pose des problèmes essentiels et qui produit une très forte impression sur le spectateur. Il ne saurait être question, en quelques minutes, d'épuiser l'analyse du contenu et de la forme de cette œuvre, mais je voudrais tout de même insister sur quelques idées générales. Planchon, dans la remise, soulève un problème fondamental, celle de la passion humaine, de l'énergie humaine. Les personnages luttent pour un idéal qui néanmoins s'insère dans l'ensemble d'une évolution historique et qu'ils agissent à contre-courant et que par la suite, tout ce qu'ils font va se trouver défait par l'histoire. Il nous montre et il nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de s'engager avec toute la force d'une passion, d'un idéal, d'une énergie, d'une ambition, dans une entreprise, mais encore d'essayer de comprendre quelle est la fonction réelle de notre action à l'intérieur de l'ensemble du devenir et quelles sont les chances de réussite et les conséquences objectives de notre action. L'impression que j'ai eue en voyant le premier acte impliquait d'abord quelques réserves. J'avais l'impression que tous ces personnages agissent et luttent contre quelque chose qui n'était pas dans la pièce. Quelque part, en dehors de cette campagne, de ce village, il y avait la ville qui attirait le fils, qui attirait les habitants du village, qui ne nous était pas représentée, que nous ne voyons pas, et contre laquelle la lutte s'avérait difficile, stérile, sans que nous voyons clairement quel est l'univers entier où se déroulent ces passions humaines, où se déroule l'action qui nous était représentée. Seulement, peut-être que finalement, cette impression d'insuffisance partielle que j'ai eue après le premier acte était une valeur esthétique de la pièce. Car le fils qui est parti à la ville pour abandonner ses idéaux qui sont dépassés, qui voulait faire du neuf, nous le verrons lui-même essayant une entreprise, essayant de se créer une existence, une vie, qui sera elle-même défaite à la fin par la même marche historique. Et Gabriel, le neveu, va être mené dans une guerre, une entreprise de colonisation qui sera elle aussi dépassée par l'histoire. Dans les trois cas, les énergies humaines s'engagent pour créer quelque chose qui sera défait en rendant vain tout cet effort, toute cette énergie dépassée. Et il se dégage de la pièce, comme idée centrale, la nécessité d'essayer de comprendre, pour chacun d'entre nous, de comprendre ce que nous faisons, d'essayer de donner à notre comportement, à notre vie, un sens qui soit non seulement subjectivement, mais objectivement effectif, réel, créateur. Maintenant, si je trouve, et je tiens à le souligner, que Planchon a réussi à nous faire sentir et comprendre cela d'une manière absolument remarquable pour une première pièce. Peut-être que c'est le fait qu'il s'agit d'un homme de théâtre qui lui a donné cette maîtrise d'emblée, la première fois où il s'est présenté aussi, non seulement comme acteur, mais comme auteur. Je voudrais aussi remarquer autre chose. Le personnage central n'est peut-être pas seulement Chausson, et peut-être même pas Chausson, car à côté de lui, et peut-être plus important que lui, il y a le personnage de Paul.
Oui, Paul est le petit-fils de Chausson, le fils de Célestin, celui qui était parti à la ville. Et c'est Paul qui nous conduit à travers cette famille, à travers l'enquête qui a lieu sur la mort de son grand-père.
En effet, revenu dans son village, Paul sent de plus en plus fortement d'abord qu'il fait partie de cette famille, qu'il est un Chausson, qu'il doit continuer non seulement ce qu'a fait son père en ville, mais aussi l'effort de créer quelque chose qui était celui de son grand-père, de son oncle. Il est un Chausson, il a sa place, il doit comprendre les autres pour pouvoir lui-même avoir suffisamment de poids dans l'action, dans ce qu'il fera, dans le sens qu'il donnera à sa vie. L'enquête n'est pas simplement pour lui un problème intellectuel, elle est un moyen d'éclaircir et d'organiser sa propre existence. Il comprend que pour continuer ce qu'ils ont voulu, il faut agir autrement. Il ne suffit pas de continuer l'existence brute, mais que pour continuer l'esprit, il faut changer l'orientation de fait. Il prend conscience de la nécessité de comprendre et de s'orienter clairement. Et à la fin, Paul se sera complètement libéré de tout ce qu'il y avait de rétrograde, de préjugés, d'insuffisance, d'inconscience dans l'action du vieux chausson, finalement aussi dans le comportement de son père et certainement dans le comportement de son oncle. Et Paul s'en va, enfin libéré de ce que j'appellerais volontiers les fantômes, les limitations, l'obscurantisme. Planchon nous a montré Paul libéré, mais il ne nous dit pas où va Paul, qu'est-ce qu'il réussira à faire.
Présenter une autre scène de la pièce.
Mais Gabriel est parti. Malgré l'opposition du père, il a quitté la ferme et il a volé tout l'argent du vieux paysan. Il est parti. Le père est persuadé qu'il reviendra. Il a raison, d'ailleurs, Gabriel reviendra. Mais à ce moment-là, rien ne permet de le penser. Et la mère est malade. La mère doit s'arrêter. Il semble que le vieux paysan est perdu la partie. C'est Planchon qui joue le paysan, c'est Marie-Louise Eblie qui joue la mère et Claude Lechy qui joue le médecin.
Voilà. J'ai examiné votre femme.
De quoi avez-vous peur? Elle peut tout entendre, même le pire. Elle est assez vieille pour être habituée au malheur.
Il va falloir que tu t'occupes tout seul de la maison. Avec moi en plus à charge. Car je ne pourrai plus tenir sur mes jambes.
Oh, mais peut-être qu'avec beaucoup de repos, Constance les retrouvera. Mais bien sûr, ce ne sera pas comme avant.
Gabriel reviendra. Quand il aura dépensé ce qu'il m'a volé, il reviendra pour faire marcher sa maison. Car c'est la sienne. C'est pour lui qu'on s'est cramponné ici, alors que tous autour de nous se sauvaient comme des lièvres, vendant la terre sacrée des vieux. Vous leur avez assez chanté. Il fallait partir. Et qu'en tout cas, vous alliez le faire.
Eh oui, mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi.
Moi, je le sais. Il y a une race de sous-culs qui n'est jamais prête à payer le prix de ce qu'elle veut.
Oh, ça suffit. Avec votre orgueil, vous bravades.
Je ne parle pas de vous. Mais de ceux qui vendent leur terre. Vous n'en avez pas. Vous pouvez pas comprendre ce déluge. Savez-vous ce que les acheteurs en font, Nina? Ils replantent des bois. Pas des châtaigniers, mais des pins. Cette race d'arbres sauvageonnes. Sur ce qui était devenu un pré ou un champ de seigle, ils replantent ces arbres. Et toutes les murettes qui retenaient le terrain s'écroulent chaque hiver davantage. Et quel est celui qui songerait à remettre debout trois pierres? Les pluies font glisser la terre vers le bas. Tous des labres. Et tout s'efface. Cette terre que leur paix et les pères de leurs pères avaient remonté dans des sacs. Voilà qu'elle glisse. Où était sa place primitive? À croire que toute cette sueur, c'était pour user un peu plus vite les carcasses.
La pâté est cuite. Il t'en reste à la donner au cochon. Moi, je vais m'étendre.
Gabriel reviendra. Ici.
ici et sa place.
La remise de Roger Planchon pour l'émission de Roger Pilaudin « Les coulisses du Théâtre de France » a été diffusée pour la première fois le 29 mars 1964. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Mieux vaut partir.